Bonsoir et bienvenue à ce dernier numéro du magazine Dialogue entre Congolais de l'année 2024. Les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État se sont clôturés samedi 14 décembre à Kinshasa. Au terme de ces assises, les participants recommandent au gouvernement notamment de désigner des mandataires publics en tenant strictement compte du profil requis. Ils recommandent également d'éviter des nominations à caractère politique, de prendre en compte le niveau d'études, le parcours professionnel et de s'assurer de l'intégrité et de la probité morale des futurs mandataires. Par ailleurs, ils appellent à la mise en œuvre des plans d'investissement prioritaires pour la réhabilitation et le renouvellement des structures et des outils de production des entreprises publiques. Pour les participants, le gouvernement doit mettre en place des mesures incitatives qui peuvent permettre de relancer les entreprises de l'État. Comment rendre effectives toutes ces recommandations? Nous en parlons ce soir avec Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, je rappelle que vous devriez être avec nous dans ce studio. Malheureusement, à cause de certaines contraintes, vous n'avez pas pu vous déplacer jusqu'à nos studios à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Vous nous suivez sous la 103.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le Cantix et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Clôture des états généraux du portefeuille, le gouvernement congolais doit passer de l'exploitation artisanale à une véritable industrie minière pour répondre aux besoins sociaux et économiques des entreprises publiques. Ceci est l'une des recommandations des états généraux du portefeuille de l'État qui se sont clôturés samedi 14 décembre dernier. Les participants recommandent aussi de prévoir des sanctions dissuasives en cas de détournement et de corruption. D'autres recommandations avec vous, Emmanuel Elamegi.
Le rapport final des états généraux des entreprises du portefeuille revient sur plusieurs recommandations pour la relance des entreprises du portefeuille. D'abord, les mandataires des entreprises de l'État devront désormais publier régulièrement des rapports financiers certifiés et accessibles au public, en clarifiant les relations financières entre l'État et les entreprises publiques. Le gouvernement congolais devra mettre en place des mesures de prévention pour renforcer le contrôle de la performance, la lutte contre la spoliation, la corruption et les détournements des deniers publics avant que ces pratiques ne se produisent. Les participants recommandent au gouvernement congolais de désigner les mandataires publics en s'en tenant strictement au profil requis. Cela en évitant les nominations à caractère politique, mais par la prise en compte du parcours professionnel, des résultats des tests et des enquêtes sur la probité morale. Selon le rapport final, les entreprises comme la MIBA, la Cadeco et d'autres comme Sokimo sont par exemple en état de faillite non déclarée. Leurs capitaux propres tombés en dessous de 50% requis par l'OADA témoignent d'une absence d'activité et d'une gestion déficiente.
Merci Emmanuel et la Mégie pour ce reportage. Jean-Lucien Boussa, je rappelle que vous êtes ministre du portefeuille. Les états généraux du portefeuille, justement, se sont clôturés samedi 14 décembre 2024. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de ces travaux, à la clôture de ces travaux. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de ces assises?
Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je dois dire que moi-même, comme l'ensemble des membres du gouvernement, comme l'ensemble des membres du gouvernement, sont très satisfaits du déroulement des travaux des états généraux du portefeuille de l'État. Comme vous savez, ça faisait 24 ans exactement que les derniers états généraux ont été tenus, et depuis lors, en passant par la réforme de 2008, aucun diagnostic profond et transversal, incluant tous les acteurs, ministres, donc membres du gouvernement, parlementaire, gestionnaire, pour ne pas parler de mandataire public, société civile, corps scientifique, et tous étaient réunis 24 ans après pour analyser la situation des entreprises du portefeuille de l'État, j'aime bien dire diagnostiquer la situation de ces sociétés et pouvoir trouver la meilleure voie pour améliorer leur performance, améliorer leur consistance, améliorer leur capacité à pouvoir rentrer dans la plupart des secteurs de la vie économique et sociale. Et donc, je dois dire que les travaux sont bien déroulés et les conclusions nous ont satisfaits.
Alors, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs recommandations formulées à la clôture de ces assises. La grande question que beaucoup de Congolais se posent, c'est comment rendre ces recommandations effectives. Plusieurs fois, on sait que en RDC, hein, on ne va pas se le cacher, on a eu à tenir des grands forums, des états généraux, des ateliers, et la mise en application des recommandations pose problème. Qu'est-ce qui peut garantir que cette fois-ci, toutes les recommandations issues de ces états généraux seront mises en œuvre?
Ben, il faut d'abord rappeler à tous les auditeurs les objectifs spécifiques qui nous ont amenés à ces états généraux. Nous avons dit qu'il fallait faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement économique et social du pays. Mais pourquoi cette thématique? Simplement parce que lorsque on analyse le visage de l'économie congolaise, il est compartimenté en deux, même en trois. Il y a un secteur privé, focalisé sur les mines et le commerce en général. Il y a un secteur public qui devrait couvrir l'ensemble des secteurs de l'économie, les mines, les transports, l'agriculture, et l'industrie, et que sais-je encore, les services. Mais il y a aussi un secteur informel. La question est de savoir combien les entreprises du portefeuille de l'État pèsent-ils dans la croissance de l'économie congolaise? Combien est-ce qu'elles pèsent dans la création des emplois? Combien elles pèsent dans la création des externalités positives pour permettre de redynamiser l'économie congolaise? Et pour répondre à cette question, il faut aussi avoir une approche stratégique. Mais quelle est l'approche stratégique de l'État congolais par rapport à son économie en partant des entreprises du portefeuille de l'État? Je voudrais dire que d'après les données, les prévisions des Nations Unies, en 2050, la République démocratique du Congo comptera 215 millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui on tourne autour de 100 millions d'habitants. Mais quelle sera la force économique en partant des entreprises du portefeuille de l'État qui va porter ces citoyens de 2050, qui seront au nombre de 215 millions d'habitants? Et donc il faut une vision stratégique. Les États généraux avaient pour but, et nous en sommes arrivés, à définir la vision stratégique de l'État par rapport à ses entreprises, se mettre d'accord dans un consensus où toutes les élites sont réunies, pour se mettre d'accord aussi sur la politique actionnariale de l'État. Est-ce que l'État se contente-t-il des entreprises existantes ou, au regard de cette dynamique démographique économique, l'État doit aller jusqu'à penser non seulement à redresser les entreprises existantes, mais à pouvoir rentrer dans la sphère économique pour pouvoir créer d'autres entreprises. Comme vous savez, dans ce pays, vous avez des provinces qui sont dotées d'aucune entreprise publique. On peut les citer, elles sont nombreuses, alors que la concentration des entreprises est plutôt localisée dans certaines autres provinces du pays. Le risque que nous prenons, c'est que nous ayons un développement déséquilibré des provinces. Et si on se projette 6-10 ans à venir, il y aura un pays à deux vitesses économiques. Il y a des provinces économiquement prospères, il y en aura, et des provinces économiquement moins prospères, pour ne pas dire pauvres. Le temps est arrivé pour que la vision stratégique de l'État, la politique actionnariale de l'État, soit arrimé à ces objectifs, comme je vais dire, de relance de l'économie, de la diversification de l'économie. Ceci impose un modèle économique adapté.
Alors, monsieur le ministre, toutes ces questions ont été traitées lors de ces états généraux du portefeuille. On a eu des recommandations après des travaux en atelier, mais la question que l'on veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui peut garantir que tout ce qu'on a eu comme résolution seront appliqués?
La première garantie est que le chef de l'État lui-même, initiateur des états généraux, est déterminé à ce que ces recommandations soient mises en œuvre. Dans ces six compartiments, les réformes du cadre juridique, nous nous y mettons déjà. L'analyse de la réforme qui est en vigueur, qui doit s'ajuster, c'est sa mise en œuvre très bientôt. Les questions, toutes ces questions-là, je voudrais rassurer d'abord, c'est le chef de l'État lui-même, qui a instruit le gouvernement de pouvoir mettre en œuvre toutes ces réformes. Et d'ailleurs, 48 heures après la clôture des états généraux, j'ai mis en place une équipe de 8 avec 4 groupes thématiques pour commencer déjà à penser, à rédiger d'ailleurs, les textes juridiques appropriés. Nous allons très bientôt mettre en place, d'abord transmettre et présenter ces recommandations au gouvernement, et à la clé, une feuille de route qui va bien nous permettre de pouvoir mettre en œuvre ces réformes de manière séquentielle, mais de manière cohérente. Toutes les structures concernées, c'est-à-dire gouvernement, la République, qui a une responsabilité, mandataires publics, qui ont aussi leur responsabilité, et tous les acteurs seront informés très bientôt des assignations que nous allons donner aux uns et aux autres. Donc, je voudrais assurer la population que les recommandations vont être appliquées. C'est une question de détermination et nous devons implémenter la vision du président, mais en même temps, nous devons prendre en charge de manière sérieuse, n'est-ce pas, les recommandations qui ont été proposées par les uns et les autres et qui ont été approuvées, parce que l'avenir de notre économie en dépend, l'avenir de notre société en dépend. Donc, je voudrais simplement dire que nous allons appliquer ces recommandations.
Alors, aujourd'hui, plusieurs entreprises de l'État sont en difficulté. Certaines personnes disent même que ces entreprises sont dans les comas depuis plusieurs années. Comment allez-vous vous y prendre? Comment allez-vous faire pour guérir ou sortir ces entreprises du coma? D'autres, certaines personnes proposent qu'il faut faire des partenariats avec... il faut qu'il y ait des partenariats externes pour guérir ces entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le ministre?
Oui, mais il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y en a qui sont, certes, en difficulté très très forte, mais regorgent un potentiel de croissance et de développement énorme. Là-dessus, nous disons simplement que l'État propriétaire doit mettre le moyen. Mais quel est le moyen que l'État doit mettre? Est-ce que c'est la subvention étatique forte forcément ou c'est d'autres mécanismes d'ailleurs que nous avons suggérés? D'abord, il y a la subvention éventuellement, les incitations fiscales en faveur des entreprises du portefeuille de l'État, mais aussi les partenariats publics-privés avec des partenaires qui sont prêts à apporter le capital. Et ces modèles fonctionnent déjà. Simplement, nous voulons améliorer ces modèles pour un modèle économique plus satisfaisant, qui va nous permettre finalement de relancer. Deuxième proposition qui ressort aux états généraux. Nous avons dit dans les états généraux du portefeuille de l'État qu'il faut que le fonds spécial du portefeuille de l'État soit renforcé. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que l'État doit se donner les moyens autonomes de pouvoir à la fois soutenir certaines entreprises, mais aussi créer des nouvelles. Nous allons identifier les sources de revenus qui vont rentrer dans le fonds spécial pour nous permettre, lorsque une entreprise est en difficulté financière, de pouvoir très très rapidement intervenir. Mais en même temps, lorsqu'il y a un intérêt économique certain ou un intérêt stratégique, ou même là où le privé ne sait pas, ne sait pas investir parce que les perspectives de rentabilité sont moindres par rapport au privé. L'État doit prendre à bras le corps le problème. Et donc là-dessus, c'est l'aspect financement. Il y a d'autres problèmes qui se posent aux entreprises, le surendettement. Et là-dessus, nous allons travailler sur des mécanismes de désendettement. Les mesures avaient déjà été prises par le gouvernement, les ministres des Finances et les ministres du portefeuille ont déjà mis en place des équipes pour travailler sur comment arriver au désendettement de la plupart d'entreprises. Et, parlant par exemple de quelques entreprises phares comme la SNEL, la Régie des Eaux et j'ai dit l'ONATRA aussi, les entreprises qui ont des créances sur l'État. Là aussi, nous avons pris des mesures et je suis en contact avec mes collègues des budgets, des finances, etc. pour que l'État puisse régler ses comptes avec ses entreprises. Et puis, nous avons aussi demandé, là où se posent les questions, parce que, en fait, au-delà de l'argent, mais il y a la question de gouvernance. Et nous sommes revenus chaque fois là-dessus. La question de gouvernance est posée avec beaucoup d'acuité. Et là-dessus, nous allons renforcer la gouvernance. Nous allons renforcer le contrôle. Et nous allons renforcer les mesures, les sanctions éventuelles. Sanctions positives ou négatives. Et donc, je reste déterminé, en tout cas, sur instruction du président de la République et de Madame la Première ministre, à pouvoir garantir le fait que ces entreprises puissent être mieux gouvernées, mieux gérées, mieux contrôlées, de sorte que nous puissions sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent. Je reste optimiste et je suis convaincu que déjà les mesures que nous allons prendre, qui commencent déjà à être exécutées, bien avant les États généraux, et celles que nous allons prendre après la clôture des États généraux, vont nous permettre d'améliorer substantiellement la situation des entreprises qui sont en très grande difficulté, en difficulté moyenne, et celles qui n'ont pas trop de difficultés, mais qui ont besoin des financements nécessaires.
Voilà. Il y a un auditeur qui vous suit depuis Kalamu, ici, à Kinshasa. Vous êtes optimiste, oui, monsieur le ministre, mais il demande quels sont les plans de restructuration prévus pour les entreprises publiques en difficulté et comment le gouvernement va-t-il assurer le financement de ces plans?
Mais les plans de restructuration existent déjà. Pour celles qui n'ont pas encore de plan de restructuration, nous avons demandé que chaque entreprise puisse nous présenter son plan de restructuration. D'une part, en mettant en exergue les investissements stratégiques qui, lorsque elles sont mises en œuvre, permettent aux entreprises d'être relancées. Notre hypothèse est simple, et je l'ai dit tout à l'heure, là où l'État est capable, est en mesure de pouvoir subventionner, il le fera. Mais la subvention a des limites. C'est pour cette raison qu'au-delà de la subvention, il y a des moyens autonomes que nous allons disposer. Si le fonds spécial du portefeuille disposait, par exemple, de 200 millions de dollars ou 400 millions de dollars seulement, nous sommes capables, avec cette base, de pouvoir lever des fonds auprès des banquiers et améliorer les interventions de tout genre, interventions financières, en faveur de ces entreprises qui disposeraient des plans de restructuration. Mais il n'y a pas que les plans de restructuration. Il y a aussi la signature des contrats de performance. On l'a fait avec la Régie des Eaux, on vient de les faire avec la SNEL, on va les faire avec toutes les autres entreprises. Les mandataires ont signé les contrats mandats, ça c'est la relation entre les mandants, que je suis, représentant de l'État actionnaire, et les mandataires publics. Mais il y a aussi les contrats de performance entre les ministères du portefeuille et chaque entreprise publique pour dire voici ce qu'on attend de vous lorsque votre plan de restructuration est adopté et lorsque les moyens sont mis à votre disposition à cet effet. Sans contrat de performance, il n'y aura pas d'avancée, même si on a mis les moyens. Donc on insiste sur les contrats de performance, on insiste sur le rôle des audits internes, et là où les audits internes sont inefficaces, nous allons appeler les auditeurs externes pour venir nous aider à faire ce travail-là. Et donc, plan de restructuration, c'est une exigence. Contrat de performance, c'est une autre exigence. Le contrôle, a priori, c'est une exigence. Le contrôle instantané et le contrôle a posteriori. Ces mécanismes qui renforcent la gouvernance vont nous permettre, je suis convaincu, d'atteindre les meilleurs résultats. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous allons inverser les tendances. Il y a des modèles dans le monde aussi qui nous montre que les économies des pays se sont développées au départ des entreprises du portefeuille de l'État. Le modèle chinois, le modèle indonésien, les autres modèles africains. Donc, je voudrais dire à l'auditeur que moi je reste optimiste, mais aussi nous y mettons et de l'intelligence et de la méthode pour pouvoir arriver à ces résultats.
On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, sud Kivu, qui a des questions à vous poser, monsieur le ministre. Il s'appelle Gabriel, on va l'écouter.
Moi, c'est Gabriel Ekwalanga, depuis Bukavu, au sud Kivu. Les recommandations des assises des états généraux des entreprises publiques, des portefeuilles, sont très intéressantes. Malheureusement, lors de la nomination dans ces entreprises publiques, on ne tiendra pas compte de toutes ces recommandations formulées par les participants à ces assises. Depuis la nuit des temps en RDC, les animateurs de portefeuille sont toujours nommés sur base des quotas politiques, ainsi que des affinités soit tribales, soit linguistiques, soit géographiques, et que sais-je encore. Moi, j'aimerais alors demander au ministre des portefeuilles, son excellence, monsieur Lucien Boubousa, de nous dire est-ce que lors des prochaines nominations dans les entreprises publiques, tiendra-t-il compte de ces recommandations qui ont été formulées aux états généraux? Deuxième question que j'adresse à son excellence, monsieur le ministre, c'est celle de savoir aussi comment va-t-il aussi se comporter une fois ces recommandations ne seraient-elles pas respectées?
Monsieur le ministre.
J'ai commencé par la deuxième question. Comment est-ce que je vais me comporter si les recommandations qui ont été faites par les États généraux ne seront pas respectées? D'abord, je vais me battre pour que ces recommandations soient mises en œuvre. En tant que ministre du portefeuille, j'ai la responsabilité, une grosse responsabilité, parce que j'ai les mandataires sous ma responsabilité. J'ai mes collègues ministres avec lesquels j'interagis. Et donc, par rapport à mes collègues ministres, on va travailler dans le sens de mettre en œuvre ces recommandations, parce que c'est la volonté du président, la République. Mais c'est aussi notre responsabilité en tant qu'élite nationale. Lorsque nous voyons notre économie être conduite, et la manière dont les enjeux commencent à être de plus en plus forts, nous avons la responsabilité de faire appliquer les pertinentes recommandations qui ont été prises de manière consensuelle par l'ensemble des participants aux états généraux du portefeuille de l'État. Donc, soyez-en rassurés. Donc, moi, je travaille pour ça. Deuxièmement, je reviens à la première question, mais les critères de nomination, comment on va faire? Je commencerai par vous dire simplement que mais nous avons déjà, en tout cas, en tant que gouvernement, sur mes propositions, la première ministre a pris un décret depuis le 12 avril 2023, plutôt, excusez-moi, depuis 4 octobre 2024, où nous avons renforcé les critères de désignation des mandataires publics. 4 octobre 2024, le décret est là, il est déjà publié. Qu'est-ce qu'on a renforcé comme critère? Un, on a simplement dit ceci, que les mandataires publics qui seront nommés doivent répondre à 4 critères. Ils doivent avoir le savoir, ça c'est de 1, ça veut dire un profil en termes de formation scolaire ou académique, ça c'est de savoir. Deuxième chose, ils doivent avoir les savoir-faire, ça s'appelle expertise ou expérience. Troisième élément, ils doivent avoir les savoir-faire-faire, ça veut dire qu'on ne peut pas devenir mandataire public si on n'a pas assumé un poste de responsabilité. Je veux dire un poste de direction dans l'une ou l'autre secteur de l'économie ou du social dans le pays, même culturel. Quatrième critère, c'est de savoir être. Mais le profil est déjà défini par ces décrets. Et enfin, mais nous avons aussi dit que parmi les critères, il faut que les tiers des mandataires publics soient issus des entreprises du portefeuille de l'État. Ça veut dire que quelqu'un qui a gravi les marches, il a été recruté dans l'entreprise, il est monté de chef de division à chef de bureau et puis directeur, etc. Il faudrait prochainement que lorsque les mandataires sont nommés, s'ils sont au nombre de 9, que 3 sur 9 soient issus des entreprises existantes. Ça nous permet d'avoir des personnes qui, à la fois, ont des niveaux d'études bien clair. Ils ont un niveau d'expertise ou d'expérience bien noté. Ils ont la capacité de diriger ou de coordonner les équipes et ils sont de bonne moralité. Et donc le décret a déjà été signé, ce qui fait que et le chef de l'État y tient. L'exemple le plus récent, mais ce sont des nominations, enfin là, le Congo Airways. Mais est-ce que vous savez que pour recruter les dirigeants et même les agents et cadres d'Air Congo, la nouvelle société aérienne, tout le monde a été recruté sur base du concours. Et le concours a été supervisé par des acteurs indépendants. Ça veut dire que des experts d'Ethiopian Airlines, plus quelques experts congolais qui ont suivi le processus. Donc, nous sommes déjà dans la dynamique du recrutement méritocratique. Et donc, si on devrait nommer les mandataires publics, qu'ils appartiennent à la société civile ou à la classe politique, il faut remplir les quatre critères principaux dont je viens d'énoncer tout à l'heure. Et je pense que le chef de l'État, qui nous a instruits à ce sujet, est très attentif là-dessus. Et j'ai donné l'exemple, et je répète, du recrutement que nous avons opéré au niveau de Air Congo.
Alors, les participants à ces assises ont beaucoup insisté hein, sur les critères des sélections, des nominations des mandataires. Vous avez répondu à la question, monsieur le ministre, mais la réalisation me dit qu'il y a un autre auditeur, toujours à Bukavu, qui a une autre question par rapport à ça. On va le prendre très rapidement avant d'aller dans une autre province.
Jean Chado Ijinima, à partir de Bukavu, en province du Sud-Kivu. Nous saluons les recommandations ici des assises des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Cependant, monsieur le ministre, comment comptez-vous mettre en application toutes ces recommandations face aux présentateurs politiques auxquels vous-même vous êtes liés? C'est devenu une coutume depuis un certain nombre d'années pour avoir un poste au sein d'une entreprise du portefeuille de l'État. On doit être recommandé par une autorité morale d'un parti politique au pouvoir ou son allié.
Très brièvement, monsieur le ministre.
Mais je répondais à la question en disant que l'approche qui est la nôtre, c'est celle du recrutement méritocratique. Ça veut dire que vous venez d'un parti politique ou pas, vous venez d'une société culturelle ou pas, vous êtes congolais, remplissant les critères, les conditions que la Constitution exige pour être mandataire public, il faut en ajouter d'autres. Et nous serons regardants là-dessus en tout cas.
Même si c'est une recommandation qui vient de la présidence de la République.
Non, mais on n'est pas là pour parler des institutions, on est là pour parler des critères qui ont été décidés, qui doivent être respectés.
Non, mais les auditeurs veulent savoir si vous saurez faire face aux pesanteurs politiques dans les nominations.
Mais la réponse est là. Mais la réponse est simple. Moi, je sais que ça vient de la présidence ou de la primature ou d'un président d'un parti politique ou d'ailleurs. En tout cas, ces acteurs politiques aujourd'hui sont déterminés à pouvoir changer de paradigme. Et les candidats qui vont nous envoyer, ou qui vont envoyer à cet effet, et qui ne manquent pas par ailleurs, parce que n'oubliez pas que les Congolais, il y en a qui ont des niveaux d'expertise très très élevés, ils sont là. Et donc, on va trouver les personnes capables de pouvoir diriger les entreprises, et nous allons y veiller. C'est clair, et moi je vais tenir bon là-dessus.
Alors aujourd'hui, le gouvernement voudrait voir toutes ces entreprises publiques qui sont en difficulté être améliorées, mais la question que l'on se pose, c'est celle de savoir quelles sont les mesures qui pourraient être mises en œuvre par votre ministère, par exemple, notamment en termes de transparence, des responsabilités et des luttes contre la corruption pour améliorer toutes les entreprises publiques qui sont en difficulté.
Déjà en termes de transparence, je voudrais vous dire qu'en termes de transparence déjà, il est clair qu'aujourd'hui, depuis que je suis à la tête de ces ministères, les exigences de transparence sont sans faille. Aucune décision qui engage les finances des entreprises, qui engage la cession des actifs, donc son patrimoine, ne peuvent pas être prises si le ministre n'est pas pleinement informé et s'il s'agit des actifs, si le gouvernement de la République n'a pas entériné. Nous avons fait passer cette décision au niveau du gouvernement aujourd'hui qui ne peut pas dire, voilà, la société dispose de 100 000 hectares et quelqu'un comme ça, un mandataire public seul dans son bureau, il va le céder à quiconque. Non, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la dépense à un certain niveau, les actifs, les patrimoines des sociétés ne peuvent pas, une décision ne peut pas être prise sur ces patrimoines si le gouvernement n'est pas pleinement informé et ce, dans la transparence la plus totale. Et les exemples sont légion. Deuxième élément, la responsabilité. Mais la responsabilité est que on ne peut pas non plus engager les fonds d'une société. On ne peut pas non plus engager le patrimoine de la société si l'acte de cession ou cet engagement ne rapporte pas à la société un bénéfice donné. Et là aussi, nous sommes intransigeants sur les sujets. Mais les facteurs qui vont nous permettre finalement, en dehors de ces actes de gouvernance, de pouvoir nous assurer que les décisions qui sont prises dans l'intérêt de la société et de la population, mais aussi en toute responsabilité dans la transparence, c'est le renforcement à la fois du contrôle interne et des audits internes. Au niveau des états généraux, par exemple, la direction de l'audit interne ne sera plus placée sous la responsabilité du directeur général, mais sous la responsabilité de l'Assemblée générale, où vous trouvez l'actionnaire qui est là-dedans. Comme ça, on donne plus de pouvoir aux auditeurs, on donne plus de pouvoir aux contrôleurs, et la perte du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Et d'autres instruments de contrôle restent en alerte. L'inspection générale des finances, par exemple. Et donc là-dessus, je voudrais rassurer mes compatriotes, tant que les états généraux ont recommandé ce qu'ils ont recommandé, s'inspirant des politiques que le chef de l'État met en œuvre, nous serons très exigeants et nous serons intransigeants sur la question de la gestion et sur la question de la gouvernance.
Monsieur le ministre, ces entreprises ont besoin d'être modernisées. Qu'est-ce que vous avez prévu pour, par exemple, moderniser les outils de production de ces entreprises et même les technologies utilisées par ces entreprises?
J'ai parlé tout à l'heure des investissements stratégiques, mais je voudrais ajouter les nouvelles méthodes de gestion. J'ai aussi parlé d'un modèle économique adapté à la croissance des activités d'entreprise. Mais je voudrais aussi insister sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut connecter ces entreprises aux outils modernes, aux technologies modernes. Là, c'est une exigence qui est faite à toutes les entreprises, de se connecter. Et donc, on va digitaliser toutes les entreprises du portefeuille de l'État. C'est à la fois une recommandation, mais c'est une exigence qui est là. Et donc, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ont des difficultés. Mais face à ces difficultés, il y a un potentiel immense. Il suffit simplement, et je reviens là-dessus chaque fois, d'améliorer la vision. Et la vision, elle est là maintenant. De pouvoir implémenter cette vision de manière très claire, mais aussi d'améliorer la gouvernance et la gestion. Et avec tous ces éléments, nous allons observer et nous allons voir que des grands changements sont en train de s'opérer au niveau de la gestion. Moi, je reste optimiste et je voudrais franchement le dire à tous les auditeurs qui me suivent. Nous avons commencé avec quelques exemples. Ça marche très bien. Un autre exemple que je vais donner. Il y a quelque temps, lorsque nous étions actionnaires dans une société minière, la vente des produits miniers n'associait pas l'État qui devait s'impliquer dans le processus des ventes ou des sélections des clients. Aujourd'hui, nous avons décidé, nous, le gouvernement a décidé, que partout l'État est actionnaire, à 20, 30, 40%, lorsque la production est faite et qu'il faut l'écouler en exportation, le gouvernement est impliqué par les biais du ministère du portefeuille dans le processus de sélection des acheteurs. Donc ça nous permet d'améliorer le chiffre d'affaires des entreprises et ça leur permet d'avoir des ressources supplémentaires. Donc il y a beaucoup, une panoplie de mesures qui est prise à la fois dans le sens de la relance de la production, de l'amélioration de la gestion, de la résorption des problèmes qui se posent en termes d'endettement et quelques contraintes encore que nous avons aux nouvelles entreprises, mais aussi et surtout dans le sens de placer ces entreprises, de qu'elles deviennent compétitives et de leur faire bénéficier des incitations dont bénéficient les secteurs privés alors que ces entreprises ne bénéficient pas trop, y compris sur le plan fiscal.
Vous êtes très très nombreux, chers internautes, à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Bakafis qui est en train de nous suivre. Innocent Moussa Etienne Tchebe Mukela, Kiakoule Mali, Zouk Jospin Loigno, ingénieur René Moulongo, Eric Niembo. Vous êtes très 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 nombreux à suivre cette émission avec le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. On va prendre à présent cet auditeur de Kinshasa qui nous appelle.
J'ignore mon congo depuis la ville portée de Kinshasa. De mon point de vue, les entreprises publiques en RDC sont souvent perçues comme des vaches laitières pour les autorités politiques qui les utilisent à des fins personnelles ou partisanes plutôt que de les gérer efficacement pour les biens publics. Par ailleurs, bien que les recommandations issues des États généraux des entreprises telles que la désignation des mandataires compétents et la mise en place des plans d'investissement soient essentielles, leur mise en œuvre reste incertaine si les pratiques actuelles de clientélisme et de politisation perdurent. Il est crucial que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour garantir une gestion transparente et responsable en veillant à ce que ces entreprises servent véritablement l'intérêt national. Qui est là, ce qui précède des questions tarot de mon esprit. Comment le ministre Jean-Lucien Boussa compte-t-il s'assurer que les recommandations sur la nomination des mandataires publics ne soient pas contournées par des pressions politiques? En deuxième lieu, quelle action spécifique le gouvernement prévoit-il pour éradiquer la politisation de ces entreprises et favoriser une gestion plus professionnelle et transparente?
Je crois que le ministre a déjà répondu à la première question concernant les nominations des mandataires publics ou les recommandations faites par les politiques. Monsieur le ministre, vous allez répondre à la deuxième question. Par contre, quelle action spécifique le gouvernement prévoit-il pour éradiquer la politisation dans les entreprises ou la politisation des entreprises publiques?
Mais le gouvernement a déjà pris des mesures très claires. J'ai indiqué tout à l'heure, la mise en place des critères, c'est pas suffisant, mais la mise en œuvre de ces critères méritocratiques pour accéder à une fonction de mandataire public. Mais au-delà du profil des mandataires, il y a aussi les influences entre les tutelles et les mandataires publics. Là aussi, il est clair qu'aujourd'hui, l'option prise par les gouvernements est que les tutelles, d'ailleurs il n'existe plus de tutelles, si c'est dans les entreprises commerciales, s'il n'y a que le ministre du portefeuille qui est le garant des intérêts de l'État et qui est le responsable de l'administration et la gestion de ces entreprises. Et là-dessus, vous ne verrez pas en tout cas les ministres du portefeuille s'impliquer dans la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. La politisation, c'est aussi le fait qu'on ait pris des décisions qui n'obéissent pas au principe des rationalités, tout simplement. En tout cas, depuis que nous sommes là, et avec beaucoup d'autres collègues du gouvernement, nous partageons des positions très claires sur le fait que les entreprises commerciales, parce qu'il s'agit des entreprises commerciales, doivent être gérées comme des sociétés privées qui visent la rentabilité. Sinon, le secteur privé, qui n'est pas véritablement géré par les Congolais dans la majorité, va supplanter le secteur public. Or, le secteur public reste le seul brassier qu'il y ait, dont le gouvernement dispose pour avoir le contrôle de l'économie et lui permettre d'être dynamique. Donc, moi, je voudrais dire simplement que le gouvernement est déterminé à inverser la tendance et je comprends. Ceux qui se posent la question sur la politisation, je les comprends, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et inverser la tendance. Et nous sommes déterminés à pouvoir le faire.
Il y a un auditeur qui nous écrit depuis Genève en Suisse, il s'appelle Pamphile. Monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa, quels sont les critères utilisés, quels sont les critères que vous utilisez pour évaluer la performance des entreprises publiques et comment les résultats sont-ils mesurés?
Il y a beaucoup de critères, hein, ça dépend. Il y a beaucoup de critères, il y a des critères d'impact.
Lesquels, hein?
Il y a les critères de rentabilité. Les critères de rentabilité. Il y a les critères en rapport avec les coûts, l'optimisation ou pas du coût. Il y a les critères du chiffre d'affaires. Il y a les critères en rapport avec le résultat. Donc, il y a autant de critères, une panoplie de critères. Mais il y a aussi, et nous insistons là-dessus, les chefs de temps particuliers, sur les critères d'impact. Je prends une société comme la SNEL et la Régie des eaux. Au-delà des critères de la desserte, l'accroissement de la desserte en eau et électricité dans le pays, qui est un critère fondamental, il y a les critères de la qualité de service. Et aussi, n'oubliez pas les critères financiers. Vous avez investi combien? Vous avez réalisé quel bénéfice à la fin de l'exercice? Est-ce que les dividendes ont été produits? Est-ce qu'ils ont été répartis? Une entreprise qui ne produit pas de dividendes depuis des siècles est une entreprise qui est en difficulté, il faut chercher à la redynamiser. Et donc, il y a beaucoup de critères, je ne vais pas me mettre à les énumérer tous ici, mais les critères sont là, et c'est pour cette raison que j'ai indiqué en parlant ici que nous avons les critères de performance. Dans le dossier, dans le document des critères de performance que nous signons avec les mandataires publics, il y a tous ces critères qui sont énumérés. Et lorsque un mandataire public ou, je veux dire, un directeur général ou des mandataires qui n'ont pas réalisé la performance attendue d'eux sur base des critères dont j'ai énuméré certains d'entre eux, eh bien, il devrait être sanctionné. Positivement ou négativement, s'il a réalisé des performances, il est sanctionné positivement. S'il n'a pas réalisé des performances, il est sanctionné négativement. Et là-dessus, le décret que Madame la Première Ministre a pris le 4 octobre 2024 permet de récompenser positivement. Lorsqu'une entreprise du portefeuille de l'État a réalisé un résultat positif, le mandataire public a droit à 2 mois de salaire de plus. Lorsqu'il a réalisé des résultats négatifs, il doit être sanctionné. C'est clair. Voilà. Donc, là-dessus, les critères existent. Les contrats de performance, les mettent ensemble. Et nous allons évaluer à mi-parcours chaque fois. Et puis, à la fin de l'exercice.
Il y a Blaise de Kinshasa qui vous demande, Monsieur le ministre, qu'en est-il de l'Amiba qui est en état de faillite non déclarée parce que ses capitaux en dessous de 50% comme requis par l'OADA? Pensez-vous que cette entreprise va se relever un jour?
L'État est actionnaire majoritaire à l'Amiba, l'État à 80%. Et l'Amiba est une entreprise stratégique parce qu'elle est au cœur d'une province ou d'une région et c'est une entreprise si lorsque elle est redynamisée, elle a décollé, elle a une incidence certaine et importante sur toute une région, la région du Kasaï en général. Et donc, quelles que soient ses difficultés, l'État a la responsabilité de pouvoir la relever parce que l'Amiba montre des perspectives intéressantes lorsque on a investi et lorsqu'on a amélioré la gouvernance. Là-dessus, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de l'Amiba depuis 2 mois 70 millions de dollars. Et le business plan que nous avons élaboré et présenté au Conseil des ministres démontre que si les 70 millions de dollars sont investis dès janvier 2025, nous sommes à même de commencer à récolter le fruit dès l'exercice 2026. Et nous allons rentrer dans le fond. La question, si nous mettons 70 millions de dollars, c'est une très bonne chose, mais quel a été le problème récurrent? En dehors des pillages qu'on a connus dans ce pays, en dehors des guerres que nous avons connues en 1998, qui sont venues assommer l'Amiba, lorsqu'on a mis ces 70 millions de dollars, nous sommes mis d'accord avec mon collègue du ministre des Finances pour que ces fonds soient gérés de manière parcimonieuse. On va optimiser les coûts, on va améliorer la gouvernance, de sorte que ces fonds soient effectivement affectés à l'achat des équipements nécessaires pour la relance de la production de l'Amiba. Et nous sommes convaincus qu'au milieu de l'année 2026, au regard du potentiel dont l'Amiba dispose, nous pouvons relever cette entreprise. C'est un défi important, mais il faut être capable de relever le défi. Et l'AMIBA ne peut pas rester dans son état des siècles et des siècles. Il faut la relever, c'est l'option prise par le chef de l'État. Les moyens sont disponibles et il en sera ainsi.
Alors, il y a des auditeurs qui nous prennent vraiment vers la fin de l'émission, des internautes, je voulais dire. Il y a Josué Ntambwe qui nous suit depuis Lubumbashi. Il demande au ministre s'il peut, monsieur le ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter les critères pour recruter les mandataires? Est-ce que vous pouvez
je
récruter...
le résumer en quatre... Je le résume en quatre choses. Mm-hmm. Les savoirs. Un mandataire doit avoir les savoirs. Ça, c'est le profil scolaire, académique, universitaire. Les critères sont clairs dans les décrets. Deux, le savoir-faire. Il faut une expérience professionnelle quand même. On ne sort pas de l'université et tout à coup, on devient DG d'une société. Non, c'est pas possible. Il faut un minimum d'expérience professionnelle qui renferme une expertise claire. Troisième élément, les savoir-faire faire, la capacité de diriger une équipe, de manager une équipe. Et ça, on le note à travers le fait que les candidats mandataires publics aient été responsables d'une entité, directeurs d'une entreprise, sous-directeurs d'une autre entreprise, etc. Et vous avez aussi les questions éthiques, le savoir-faire. Mais nous avons ajouté en disant, désormais, si on a un comité, un conseil d'administration de 9 personnes ou de 6 personnes, les tiers des membres du prochain conseil d'administration sera recruté dans l'entreprise. Parce que il faut avoir au sein du conseil d'administration des gens qui connaissent l'entreprise, des gens qui ont une expérience là-dedans et qui ont gravi les marches, qui peuvent apporter un peu plus par rapport aux personnes qui n'ont jamais été dans l'entreprise et qui sont appelées à diriger l'entreprise parce qu'ils ont les critères généraux qui remplissent.
Nous sommes à la fin de l'émission, monsieur le ministre. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les entreprises publiques? Comment le gouvernement envisage-t-il de les rendre plus attractives pour les investisseurs?
Sur le plan conceptuel, les entreprises publiques doivent être ces leviers de la croissance de l'économie. Et aujourd'hui, l'approche du gouvernement, c'est non seulement de redresser les entreprises existantes, mais aussi d'avoir une politique actionnariale qui permet de créer de plus en plus d'entreprises. Les provinces qui ne disposent d'aucune entreprise privée structurée, ni publique structurée, doivent, au regard de leurs spécificités provinciales, disposer des entreprises où l'État est actionnaire. Donc nous disons que l'État doit rentrer dans la sphère économique pour pouvoir redynamiser l'économie. Deuxième chose, nous avons beaucoup insisté, nous allons travailler dessus, sur les questions d'assainissement des entreprises, sur endettement et autres problèmes que qui se posent à ces entreprises-là. Et enfin, j'ajouterai la question de la gouvernance. Beaucoup d'entreprises ne marchent pas très bien à cause de la mauvaise gouvernance. Et nous l'avons dit, nous devons et nous allons améliorer la gouvernance. La qualité de la gestion doit être orthodoxe et axée sur le résultat. Et pour mieux faire, nous allons renforcer aussi bien les contrôles internes que les contrôles externes. Et à la clé, vous avez la sanction positive ou négative. Positive selon qu'on a fait les meilleurs résultats, négative selon qu'on a fait des bons résultats. Et nous allons nous ouvrir aux partenaires privés, tant nationaux qu'étrangers, qui ont besoin de pouvoir se mettre ensemble avec les sociétés d'État pour créer une nouvelle dynamique au sein de l'économie nationale.
Merci beaucoup Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille du gouvernement central. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. C'est fini pour l'année 2024. Je voulais dire, c'est la dernière émission, le dernier numéro de votre magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné durant toute l'année 2024. Jonathan Fanani, Clément Chimanga, Jean-Claude Siala, Guy Maté, Donna Madimba, Hervé Voka. Merci aussi à vous, internautes, auditeurs et de Radio Capi, qui avez cheminé avec nous durant toute cette année 2024. On se retrouve en 2025 pour des nouveaux numéros de votre magazine Dialogue entre Congolais. Monsieur le ministre, meilleurs vœux et toutes les bonnes choses. Hein.
Meilleurs vœux à vous-même, à toute l'équipe, meilleurs vœux à toute la population congolaise qui suit en ce moment. J'ai de la chance d'avoir clôturé donc l'émission Dialogue avec les Congolais.
Voilà. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez de partout, en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Restez branchés sur la fréquence de la paix.